à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 14 novembre 2019, en direct de Washington, Eric Manilakiza, pour commencer les titres. Le Parlement béninois adopte un nouveau code électoral, l'opposition insatisfaite. Ebola en RDC, un deuxième vaccin introduit aujourd'hui à titre d'essai clinique dans l'Est à Goma.
Lorsqu'on veut déjà conserver ou acquérir le pouvoir, on a toujours une tendance, je dis, facile à s'appuyer sur le village ou sur le groupe ou sur la tribalité. Nous savons par expérience que c'est un piège malsain dans lequel il faudrait faire que la population camerounaise tombe.
C'était donc au Cameroun où le gouvernement et la société civile dénoncent la haine dans les médias. L'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient tente une médiation en vue d'une désescalade urgente dans la bande de Gaza. Et n'en manque pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco, mais pour l'instant, le journal. Au Bénin, le Parlement a adopté à l'unanimité, après 48 heures de discussion, un nouveau code électoral, instaurant notamment un poste de vice-président et une meilleure représentation des femmes. Le point avec Idriss Fall.
Le nombre de députés à l'Assemblée nationale passe de 83 à 109 sièges, dont 24 réservés aux femmes, à raison d'une femme par circonscription, et seules les listes qui ont obtenu 10% des suffrages sont éligibles à l'attribution de sièges. Ce nouveau code prévoit la création d'un poste de vice-président, la mise en place de nouvelles listes électorales et la réforme de la Commission électorale nationale autonome à partir de 2021, année de la prochaine présidentielle. Il réduit à 50 millions de francs CFA la caution à payer par les candidats à la présidentielle alors qu'elle était de 250 millions. Ce code prévoit aussi que les futurs candidats à la présidence et au poste de vice-président doivent être parrainés par 10% de l'ensemble des députés et des maires. Toutefois, les conditions introduites avant les législatives d'avril sont restées inchangées. Il s'agit des récépissés de reconnaissance des partis et le quitus fiscal demandé aux partis qui ont été les points de discorde qui avaient exclu les partis d'opposition aux dernières élections législatives.
En Guinée, des heurts ont éclaté jeudi à Conakry lors d'une manifestation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Des échauffourées se sont produites quand les manifestants vêtus de rouge ont tenté de dévier de l'itinéraire fixé par les autorités. Au moins 17 civils et un gendarme ont trouvé la mort depuis le 14 octobre. Amnesty International a dénoncé l'usage excessif de la force, les arrestations massives et arbitraires et l'impunité des forces de sécurité ces dernières années. En République démocratique du Congo, un deuxième vaccin a été introduit à titre d'essai clinique contre l'épidémie du virus Ebola dans l'est du pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'ONG Médecins Sans Frontières a ouvert deux centres de vaccination à Goma où aucun nouveau cas de fièvre Ebola n'a été signalé depuis le mois d'août. MSF cible 50 000 personnes sur une période de 4 mois. Pour le moment, 23 000 doses de ce vaccin des laboratoires américains Johnson & Johnson ont été livrées. Après cette première dose, les participants doivent se présenter de nouveau deux mois plus tard pour une deuxième injection. Un premier vaccin a été fabriqué par le groupe américain Merck Sharp & Dohme. D'après Steve Agua, coordonnateur de la riposte, cette vaccination à Goma est complémentaire. Elle ne remplace pas le premier vaccin, mais elle vient le compléter. Cette dixième épidémie de fièvre hémorragique a tué 2193 personnes pour 1067 guérisons. En juillet, l'épidémie a été déclarée urgence de santé publique mondiale par l'OMS dans un appel aux bailleurs de fonds.
Plusieurs pays et organisations se sont engagés jeudi à Nairobi à améliorer les droits reproductifs des femmes, notamment l'éradication des mutilations génitales, de la violence basée sur le genre et de la mortalité maternelle. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, FINUAP, plusieurs gouvernements, des ONG et des entreprises vont débourser 9 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. En Afrique du Sud, des centaines de demandeurs d'asile qui campaient devant les bureaux du HCR à Pretoria pour demander leur transfert vers un autre pays sont entrés par la force jeudi dans les bureaux de l'agence en escaladant le mur d'enceinte et le portail. Ils disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité après une nouvelle vague de violences xénophobes qui a fait au moins 12 morts en septembre. Toujours en Afrique du Sud, plus de 3 décennies après la fin de l'apartheid, les Blancs gagnent en moyenne 3 fois plus que les Noirs, selon un rapport des statistiques nationales publié jeudi. Le rapport précise que le salaire mensuel moyen des Noirs, qui représente 80% de la population, s'établissait en moyenne à $464 contre $1659 pour les Blancs. L'organisme national des statistiques ajoute que les femmes gagnent 30% de moins que les hommes. 10 Nigérians ont été arrêtés dans plusieurs États américains. Ils sont accusés de conspiration pour blanchir de l'argent obtenu dans le cadre d'une escroquerie romanesque en ligne visant des femmes américaines. Bagasikura.
L'acte d'accusation a été rendu public par un grand jury fédéral en octobre et publié ce mercredi. 7 suspects ont été appréhendés au cours d'opérations effectuées tôt le même jour par le FBI dans 3 États. 5 accusés ont été arrêtés à Norman, dans l'Oklahoma, 1 accusé à Brooklyn et 1 autre à Long Beach, en Californie. 3 autres sont toujours en fuite. L'acte d'accusation dit que depuis 2017, les co-conspirateurs ont dissimulé le produit d'opérations frauduleuses en déplaçant de l'argent entre plusieurs comptes bancaires à l'aide de documents d'identité frauduleux afin de dissimuler l'origine des fonds et l'identité des co-conspirateurs. Les suspects, pour la plupart nigérians, auraient établi une relation en ligne avec des femmes et leur disaient qu'ils étaient des citoyens américains travaillant à l'étranger. Selon l'acte d'accusation, ils ont ciblé les femmes sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux et ont créé des profils de rencontres utilisant de faux noms, emplacements et images. Au total, ils ont volé plus $1 million et des biens d'une valeur de $546 000.
Human Rights Watch dénonce une répression généralisée de la contestation en Algérie qui vise, selon l'ONG américaine, à affaiblir la contestation citoyenne contre le pouvoir et contre la tenue de la présidentielle qu'il est déterminé à organiser le 12 décembre. Et le ministre égyptien des Affaires parlementaires, Omar Marwan, a rejeté mercredi un rapport d'experts de l'ONU ayant estimé que la mort de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi pouvait s'apparenter à un assassinat arbitraire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'ancien gouverneur de l'État du Massachusetts, Deval Patrick, a annoncé jeudi qu'il rejoignait la course à la présidentielle de 2020, portant à 18 le nombre de candidats démocrates voulant en découdre avec le républicain Donald Trump. Et l'Ukraine a rejeté jeudi tout lien entre l'aide américaine destinée à Kiev et une demande de Donald Trump d'enquêter sur Joe Biden, son rival potentiel à l'élection présidentielle de novembre 2020. Un fragile accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à 5h30 heure locale dans la bande de Gaza après 2 jours de combat entre les forces israéliennes et le djihad islamique ayant fait plus d'une 30aine de morts dans l'enclave palestinienne. Nathalie Barche.
L'émissaire de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nikolai Mladenov, s'est rendu hier au Caire pour mener avec les Égyptiens une médiation en vue d'une désescalade urgente. L'accord sous médiation égyptienne stipule que les factions palestiniennes doivent s'assurer de maintenir la paix lors de manifestations contre le blocus israélien sur Gaza et pour le retour des réfugiés palestiniens. Dans la matinée, l'armée israélienne a cependant fait état de 5 projectiles tirés depuis la bande de Gaza vers Israël, indiquant en avoir intercepté 2. De son côté, Israël doit arrêter ses frappes et s'assurer d'un cessez-le-feu lors de ses manifestations de la marche du retour, qui depuis mai 2018 ont fait plus de 300 morts et des milliers de blessés dans la bande de Gaza.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a assuré jeudi que les États-Unis continueraient de diriger la lutte contre le groupe djihadiste État islamique devant les alliés qui luttent contre l'État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Muniteco, elle est signée Nanit Talani.
La capitale équato-guinéenne, Malabo, est paralysée par une pénurie d'essence qui dure depuis le début de la semaine. Le ministère des hydrocarbures a décidé mardi, en accord avec Total, principal fournisseur de carburant, de limiter les ventes de carburant à 5 000 francs CFA par personne pour un prix du litre d'essence fixé à 480 francs CFA. La Guinée équatoriale souffre d'une pénurie car des navires transporteurs de carburant sont bloqués en mer par le mauvais temps. Le pays produit environ 125 000 barils de pétrole par jour, mais ne dispose pas de ses propres raffineries et dépend donc des importations pour se fournir en essence. Meridiam a signé un contrat de concession de 33 ans avec le gouvernement gabonais pour la centrale hydroélectrique de Kingélé. D'une capacité de 34 MW, elle sera construite sur le fleuve Mbeï, à 100 km de Libreville pour 165 millions de dollars. L'infrastructure devrait fournir 13% de l'électricité à la capitale. Elle remplacera plusieurs centrales thermiques, permettant ainsi d'éviter l'émission annuelle de 150 000 tonnes de gaz carbonique. Pour terminer, la société Black Earth Minerals lance le démarrage des essais d'extraction minière à son projet de graphite Manir à Madagascar pour 10 ans, c'est ce que révèle l'agence Ecofin. Les activités d'excavation et d'extraction finiront d'ici fin novembre et un échantillon de plus de 60 tonnes sera analysé en Chine en janvier 2020.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
À plus tard.
On commence avec la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui se poursuit aujourd'hui.
Oui, entre autres matchs, on a un duel ouest-africain entre le Mali et la Guinée. La RDC reçoit le Gabon, le Ghana, l'Afrique du Sud. Les Comoriens se déplacent au Togo. L'Algérie, championne en titre, lance sa course face à la Zambie.
Entre autres résultats, 0-0 hier entre le Burkina Faso et l'Ouganda.
Face au crâne de l'Ouganda, les étalons ont été tenus en échec devant leur public au stade du 4 août de Ouagadougou, où était notre correspondant Kader Traoré.
Les étalons ont été tenus en échec 0 but partout par les Couronnes de l'Ouganda. Pourtant, la partie avait bien démarré pour les Burkinabés, car très tôt, ils se sont procurés les premières occasions. Alain Traoré, Cyril Bayala et Charles Kabore ont beaucoup frappé, mais le dernier rempart ougandais, Denis Onyango, est resté intraitable sur sa ligne de but. Pour l'entraîneur ougandais Jonathan Kinsrue, l'adversaire a été bien étudié avant la rencontre.
We did a lot of research into Burkina Faso.
Nous avons fait beaucoup de recherches sur Burkina Faso. Well. Nous avons regardé les meilleurs joueurs et la façon de pouvoir les stopper sur le terrain.
Pour le capitaine des étalons Charles Kabore, il faut très vite se remettre en cause et aller chercher un meilleur résultat lors de la deuxième journée au Soudan du Sud.
Et j'espère que les prochains matchs contre le Soudan du Sud à Khartoum, on va tout faire pour avoir un bon résultat.
Le Malawi a battu le Soudan du Sud sur le score de 1-0. Il prend la tête du groupe B avec 3 points devant le Burkina et l'Ouganda 1 point. Kader Traoré à Ouagadougou pour VOA Afrique.
Zlatan Ibrahimovic annonce son départ du Los Angeles Galaxy.
À 38 ans, la star suédoise l'a annoncé sur son compte Twitter, mais n'a rien dit sur sa retraite ni sa prochaine destination éventuelle. Vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. L'histoire continue. Maintenant, retournez voir du baseball. A tweeté Zlatan Ibrahimovic dans son style habituel. Malgré 29 buts inscrits en autant de matchs au cours de son premier exercice en 2018, le Los Angeles Galaxy ne s'est pas qualifié pour les playoffs. Chose réparée cette année, mais avec au bout une élimination en demi-finale de conférence Ouest face au Los Angeles FC. Au total, Ibra a inscrit 54 buts et délivré 17 passes décisives en 58 rencontres de MLS.
Et Thierry Henry, nommé entraîneur de l'Impact Montréal.
L'ancien international français de 42 ans se relance dans le championnat nord-américain de football. Thierry Henry est devenu entraîneur de l'Impact Montréal pour les deux saisons au moins, selon la franchise canadienne. Le champion du monde avec la France en 1998 connaît bien la MLS pour avoir porté les couleurs des New York Red Bull de 2010 à 2014. Nommé à l'automne 2018 sur le banc de son club formateur Monaco, Thierry Henry a été évincé après seulement 100 jours sur le rocher et des résultats décevants. À l'Impact Montréal, il succède au Colombien Wilmer Cabrera, qui a assumé l'intérim pendant 2 mois après le limogeage en août de Rémi Garde.
Et c'est tout pour les sports. À demain, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manirakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, le deuxième vaccin a été introduit jeudi à titre d'essai clinique contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est du pays, à Goma. Des équipes de l'ONG Médecins Sans Frontières ont ouvert deux centres de vaccination. Plus de 40 000 personnes sont attendues, avec plus de 500 000 doses à administrer dans le Nord Kivu. Les précisions de Charlie Kasereka.
Pour le lancement de cette campagne, des centres de santé ont été ouverts par les autorités sanitaires dans les quartiers populaires de Kaembe et Majengo. Nineiro Joseph, un homme, la quarantaine révolue, a été la première personne vaccinée tôt ce matin à Goma.
Je suis venu ici au centre pour recevoir le vaccin et je viens de le recevoir. Je me sens très soulagé parce que je demandais souvent quand est-ce que nous serons vaccinés. Alors, je viens de l'avoir pour me protéger contre Ebola.
L'opération va durer environ 4 mois. Plus de 40 000 personnes seront ciblées dans 6 sites de vaccination. La coordination de la riposte s'est réjouie du début de cette opération. Docteur Steve Aouka est le coordonnateur de la riposte Ebola.
Nous sommes très contents qu'à partir d'aujourd'hui, que les activités du deuxième vaccin puissent commencer et ainsi contribuer à la riposte contre Ebola. Ceux qui ont reçu le premier vaccin sont bien protégés et n'ont pas d'intérêt à venir prendre ce deuxième vaccin. Ceux qui vont recevoir celui-ci seront immunisés et seront appelés à venir pour prendre une deuxième dose. Ces vaccins se donnent à deux doses, par exemple aujourd'hui, et le second 56 jours après.
Sur les 500 000 doses attendues, quelques 22 000 sont déjà disponibles et stockées ici à Goma. Ce deuxième vaccin, fabriqué par Johnson & Johnson, c'est un complément au premier vaccin fabriqué par Merck, est déjà utilisé. Il ne remplace pas les premiers vaccins administrés dans les zones épidémiques, ont tenu à rappeler les autorités sanitaires de la RDC. Médecins Sans Frontières, l'un des partenaires de la RDC dans la riposte contre Ebola, se fait rassurer et précise que ce vaccin n'a aucun problème pour la vie humaine. Véronique Aubanier, coordonnatrice de la vaccination à MSF France à Goma.
Après, il faut savoir que ce n'est pas une campagne de vaccination, c'est vraiment une étude et que l'enrôlement dans cette étude est volontaire. Tout le monde est éligible, il suffit d'être âgé de 1 an ou plus, mais sinon tout le monde est éligible, à moins d'avoir une pathologie aiguë grave ou une pathologie chronique qui est en train de décompenser.
Signalons que ce deuxième vaccin a déjà été utilisé en Sierra Leone et en Ouganda. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, la haine publique et la stigmatisation socio-ethnique prennent des proportions inquiétantes. C'est un constat du gouvernement et de la société civile qui dénonce de telles dérives très visibles dans le champ politique et dans les médias. De Yaoundé, la correspondance est signée Emmanuel Julta.
Il y a eu des messages de haine qui sont passés par le canal des organes de presse.
Les propos sont du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, qui a présenté lors du dernier conseil de cabinet une communication sur la montée des discours de haine sur les médias.
Ma communication visait justement à voir comment faire en sorte que la presse prenne conscience de la nécessité pour elle de travailler à la promotion de la conscience nationale.
Selon des observateurs, c'est depuis la tenue de la dernière élection présidentielle en 2018 que la haine, le tribalisme et la stigmatisation ethnique se sont invités dans les débats publics. Un point de vue que partage Ernesto Yené, acteur de la société civile au sein de l'initiative citoyenne.
C'est même la politique qui se sert de la montée de la haine. Lorsqu'on veut déjà conserver ou acquérir le pouvoir, on a toujours une tendance, je dis, facile à s'appuyer sur le village ou sur le groupe ou sur la tribalité. Nous savons par expérience que c'est un piège malsain dans lequel il ne faudrait pas que la population camerounaise tombe.
Sur le champ politique, les actes haineux sont les plus recensés. En raison de leur appartenance à certaines formations politiques, certains Camerounais sont voués aux hégémonies. Un militant du MRC a été pris à partie le mois dernier dans la région du Sud. Sam Séverin Ango revient sur cette mésaventure.
Il s'agit des gens qui estiment que nous sommes ressortissants de la région du Sud et nous avons choisi de militer pour un parti qui est présidé par des ressortissants bamiléké. Donc on nous a traités de traîtres et je trouve que c'est lamentable aujourd'hui, en plein 21e siècle, qu'on puisse encore avoir de tels agissements.
Le parti au pouvoir, le RDPC, tient à se démarquer de cette forte tendance au tribalisme politique. Le parti diffuse abondamment ces derniers temps des messages de vivre ensemble. Roger Nkododang est député RDPC dans la région du centre.
Nous sommes Camerounais à partir du moment où nous appartenons au territoire camerounais. Et nous devons tous nous aimer, accepter de vivre ensemble les uns et les autres, sans distinction de langue ou d'ethnie.
Mais la société civile camerounaise pense que les bonnes intentions politiques seules ne suffisent pas pour faire taire les démons de la haine et du tribalisme. Initiative citoyenne a lancé une campagne de conception des messages contre le tribalisme et la haine au Cameroun. Ernesto Yené, acteur de la société civile.
Le but de cette campagne, c'est de collecter déjà ces messages qui vont être diffusés. Il y aura une session de formation avec des journalistes, avec des blogueurs, des lanceurs d'alerte, qui sont généralement des personnes qui sont les mieux indiquées dans les réseaux sociaux pour canaliser ou des dérives langagières. Il y aura aussi une campagne de sensibilisation avec affichage dans les transports publics.
Le Cameroun va organiser un double scrutin en février prochain pour l'élection des députés et conseillers municipaux. Certains Camerounais redoutent que le tribalisme et la haine gagnent en intensité durant cette période. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, un boom aurifère suscite la convoitise croissante de divers groupes armés. Les forces de sécurité peinent à contrôler les zones d'orpaillage dans des régions délaissées et parfois même abandonnées par l'État. Les groupes djihadistes s'y engouffrent. Idriss Fall a joint Mathieu Pellerin, auteur du rapport à International Crisis Group.
J'en profite pour deux raisons. La première, c'est qu'on observe depuis quelques années un boom aurifère dans la partie nord du Sahel, dans des zones qui étaient déjà fréquentées par les groupes djihadistes. Donc nécessairement, les groupes djihadistes se sont rapprochés de ces sites aurifères. Je pense particulièrement à la région de Kidal, au nord du Mali. Et dans le même temps, vous avez une progression de ces groupes djihadistes dans des zones anciennement aurifères et qui jusqu'ici n'étaient pas sous la menace de ces groupes. Et là, je pense davantage, par exemple, au Burkina Faso, dans la partie septentrionale, où d'anciens sites aurifères artisanaux sont désormais sous influence de ces groupes djihadistes. Comment ils en profitent d'un point de vue financier? Soit, je dirais, ils sécurisent certaines mines, se font payer de cette manière-là, mais ça c'est beaucoup plus à titre individuel des unités djihadistes. Et d'une manière plus systémique, il y a la collecte de la zakat, l'impôt islamique, auprès de certains orpailleurs.
Des cas concrets au Mali ou au Burkina?
Dans l'extrême nord de la région de Kidal, dans les environs de Tinzawaten, vous avez quelques sites aurifères artisanaux qui sont sous influence de ces groupes djihadistes. De même que des cas notamment à l'est du Burkina Faso ont été rapportés, où une mine est restée longtemps et serait encore aujourd'hui sous l'influence de groupes djihadistes. Alors il ne faut pas imaginer à chaque fois que ces groupes militarisent le site aurifère ou ont des gardes armés à l'entrée de ces sites, mais c'est beaucoup plus une influence diffuse qui fait que les orpailleurs de ces sites miniers se doivent de collaborer avec les djihadistes.
La plupart de ces mines ne sont pas protégées par les gouvernements. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors?
Tout d'abord, il faut quand même mentionner qu'il ne faut pas être alarmiste. Il n'y a qu'une très très infime minorité de ces sites aurifères artisanaux qui sont sous influence des groupes djihadistes. Et l'immense majorité de ces sites, la situation est relativement paisible. C'est une soupape sociale considérable pour les populations du Sahel, puisque 2 millions approximativement d'orpailleurs travaillent directement dans ces sites aurifères artisanaux et sans aucune influence de groupes armés. Ça reste un phénomène qui est minoritaire, mais qui est tout de même un sujet de préoccupation. Déjà, il faudrait mieux formaliser la relation que les gouvernements entretiennent avec des groupes armés locaux, je pense singulièrement à des groupes d'autodéfense, que ce soit les Kogleogo au Burkina Faso ou bien les Dozo dans le sud du Mali. C'est des groupes qui assurent une sécurité, je dirais, de proximité dans ces sites, mais qui souffrent d'un manque d'encadrement et de régulation un peu de leurs activités. Donc il faudrait que les États soient plus actifs dans cet encadrement. Ça, c'est pour les sites qui ne sont pas, je dirais, directement sous la menace des groupes armés. Pour les sites qui sont plus directement, immédiatement touchés par l'influence de ces groupes, là, l'État doit, dans la mesure du possible, reprendre le contrôle de ces sites, assurer une sécurité par le déploiement de forces de défense et de sécurité, afin de limiter le risque de financement de ces groupes-là. Mais il faut qu'effectivement, ce soit des mines qui soient ciblées, parce que bien évidemment, au regard, je dirais, de la mobilisation croissante, et peut-être même déjà excessive, des forces de défense et de sécurité sur le front antiterroriste, elles ne peuvent pas se disperser et mobiliser davantage de moyens sur l'ensemble des sites miniers.
Mathieu Pellerin de l'International Crisis Group.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, l'enquête initiée par les démocrates au Congrès en vue d'une possible mise en accusation de Donald Trump entre dans une phase critique avec le début des auditions publiques de témoins. Cette procédure visant un président n'avait pas été tenue depuis plus de 20 ans et elle risque de diviser davantage le pays à un an de la présidentielle. Les républicains continuent de se rallier autour du président que les démocrates accusent d'abus de pouvoir dans l'affaire ukrainienne. Nous allons évoquer les implications politiques de cette procédure avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis ont naturalisé 833 000 personnes au cours de l'exercice 2019, un record depuis 11 ans. 60 nouveaux citoyens américains de 51 pays différents ont fait allégeance lors d'une cérémonie spéciale mardi au Musée national des Amérindiens à Washington. Saqib Oul-Islam a recueilli des réactions. Le récit est de Nathalie Barche.
Un petit drapeau américain à la main gauche, la main droite sur le cœur. Les 60 personnes debout ont prêté le serment d'allégeance aux États-Unis d'Amérique. Sandra Amoin, originaire du Ghana.
Cela signifie beaucoup de rejoindre l'un des plus grands pays du monde et de pouvoir le servir.
Pour ces personnes de 51 pays différents, il s'agissait de la dernière étape pour devenir citoyen américain. Mais cela marque aussi un nouveau départ dans leur vie. Yo Opoku est également originaire du Ghana.
Cela va ouvrir plus de portes pour moi, pour un jeune homme en devenir. C'est une excellente opportunité ici.
Devenir citoyen américain donne de nombreux privilèges, dont celui de pouvoir amener des membres de la famille aux États-Unis, d'être éligible à des emplois fédéraux et de se porter candidat à une charge publique. Mais dans cette foule, beaucoup étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir voter. Somrin Amer, originaire du Pakistan.
J'ai obtenu ma citoyenneté et la partie la plus excitante. L'année prochaine, ce sera le vote et je voterai.
Bien que l'administration Trump ait proposé d'importantes réductions de l'immigration légale, les services de citoyenneté et d'immigration ont naturalisé 833 000 personnes au cours de l'exercice 2019, qui s'est terminé le 30 septembre. Un record depuis 11 ans pour les serments de citoyenneté. Sarah Taylor, directrice par intérim du district de Washington, pense qu'une des raisons de l'augmentation des naturalisations pourrait être les prochaines élections.
Nous avons toujours eu une forte hausse avant une élection présidentielle. Elle est restée élevée ces deux dernières années et nous nous attendions à ce qu'il en soit ainsi.
Venant de pays tels que l'Afghanistan et le Yémen, ces nouveaux citoyens souhaitent un avenir radieux pour eux-mêmes et leurs familles et espèrent que la naturalisation leur donnera de nouvelles opportunités pour réaliser le rêve américain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 17h30 en temps universel. Merci de l'avoir suivi à la console, Nick Ifanov. Merci à Joselle Morissin qui a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Eric Manilakiza était avec vous à la présentation. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.